Philippe, métaphysique à Fribourg, le 23 novembre 82, premier cours.
Les quatre cours de métaphysique, j'espère que je ne vais pas éclater votre intelligence. Ça doit la purifier, mais c'est pas trop mal. Bon, alors, nous allons reprendre et continuer ce que nous avions commencé de voir il y a 8 jours, c'est-à-dire, à partir du jugement d'existence, je crois ça très important. Au point de départ, on ne voit pas très bien l'importance. Il faut arriver à saisir cela, que le point de départ de la philosophie première, qui est un au-delà de toutes les parties de la philosophie, toutes les autres parties de la philosophie commencent par l'expérience. Je ne peux pas dire que j'ai l'expérience de l'être, c'est ça qui est difficile, mais j'ai l'expérience du travail, de l'amour d'amitié, de la coopération, des réalités qui sont en devenir, des réalités qui se meuvent. J'ai ces 5 grandes expériences. Et si je réfléchis sur ces 5 expériences, je vois qu'il y a quelque chose de commun. C'est qu'à travers ces 5 expériences, je découvre quelque chose qui est autre que moi. Quelque chose qui résiste d'une certaine manière, ou au contraire est en communion avec moi, parce que ce n'est pas toujours la résistance. Dans l'amour d'amitié, c'est la communion en premier lieu. Mais dans le travail, c'est la résistance. La matière résiste. Dans le devenir, c'est aussi quelque chose qui est au-delà de ma connaissance comme telle. Je saisis donc qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce que je pense, et qu'il y a quelque chose de commun à travers ces 5 expériences. Et ce quelque chose de commun, c'est que cette réalité existe. La matière existe, la personne humaine que j'aime existe, celui avec qui je coopère existe. Et je vois que mon intelligence, alors à ce moment-là, exprime le jugement d'existence, ceci est. Alors, c'est un au-delà de l'expérience, et c'est pourtant présent à toute expérience. Toute expérience présuppose le jugement d'existence, toute expérience au sens fort. Et je dis bien au sens fort, parce que j'ai eu un cauchemar cette nuit. Étonnant, quand on arrive à Fribourg. Donc, j'ai eu un cauchemar cette nuit. Alors, ce cauchemar sur que j'ai porte sur une image, un fantasme. Que quand je me réveille, je me dis que ce n'est pas la réalité. Et pourtant, le cauchemar existe dans mon imagination. Il existe comme quelque chose de réel, mais qui n'est pas pleinement réel. Donc il y a un certain jugement d'existence sur le rêve. Le rêve n'est pas rien. Il existe. Mais je peux moduler mon jugement d'existence et voir que mon jugement d'existence peut avoir plus ou moins de réalisme. Il est plus ou moins vrai, ou plus ou moins réel. Et je peux relativiser mon rêve par rapport à la réalité. Et le jugement d'existence implique du plus et du moins. Il faut bien comprendre cela. Et pourtant, en lui-même, il a quelque chose d'absolu. Ça existe ou ça n'existe pas. Vous savez, c'est pour ça que certains philosophes, à partir de Leibniz, ont posé le problème de cette manière. La métaphysique commence à se poser le problème, est-ce que cette réalité, pourquoi cette réalité existe, plutôt qu'elle n'existe pas. Et Heidegger reprend cela. Pour lui, c'est très important que le premier jugement soit ça. Alors, en réalité, c'est pas le premier jugement. C'est déjà une attitude très réflexive de se demander pourquoi ça n'existe pas. Comprenez bien, la première chose c'est de voir que la réalité, elle est. Quand vous posez pourquoi elle n'existe pas, c'est déjà une réflexion philosophique un peu maladive. Hein. Pourquoi elle n'existe pas, ça prouve que vous avez déjà conçu le non-être et que vous vous demandez pourquoi ça n'existe pas. C'est pas premier, je crois pas du tout. Alors c'est très curieux de voir ça apparaître chez Leibniz. Tout le problème, pourquoi au fond on a posé ce problème. Et Heidegger le reprend. pourquoi cette réalité existe plutôt qu'elle n'existe pas. Je ne crois pas du tout que c'est premier. Je crois que c'est par rapport au possible. Le possible peut exister ou peut ne pas exister. C'est ça le propre de l'être possible. Oui, le rêve peut exister et peut ne pas exister. Alors je ne commence pas ma philosophie par le rêve. Je ne commence pas ma philosophie par l'idée. Si je commençais ma philosophie par une idée, je pourrais me demander est-ce que cette idée existe ou n'existe pas. Alors vous voyez, quand Leibniz dit ça, ça prouve que déjà sa philosophie commence par une idée. Et c'est ancien, puisque déjà chez Suarez, la philosophie, la métaphysique, commence par l'idée d'être. Si ma philosophie commence par l'idée d'être, le premier jugement sera non pas le jugement d'existence, mais pourquoi cette réalité existe plutôt ne pas exister. Parce que vous êtes en face du possible. Le possible peut être et peut ne pas être. Vous voyez, c'est toujours ce qu'il faut se rappeler par rapport au possible. Et c'est important de saisir cela par rapport au jugement d'existence. L'être possible, il est ou il n'est pas. Le possible regarde l'essai et le non-essai. Alors, si vous exprimez ça dans un principe, vous direz pourquoi cette réalité existe plutôt que de ne pas exister. Tandis qu'au contraire, si vous me considérez que votre philosophie ne commence pas par l'être possible. L'être possible, c'est l'idée. L'idée, c'est un être possible. Le rêve, c'est un être possible. L'intentionnalité. Parce que l'intentionnalité recouvre l'idée et le rêve. L'intentionnalité, elle peut exister ou peut ne pas exister. Donc, si ma philosophie commence par l'intentionnalité, je comprends très bien que le premier principe que je vais émettre, c'est tout de suite, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. C'est important parce que, de fait, à partir de Leibniz, c'est comme ça que le problème s'est posé. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi le problème s'est posé de cette manière-là et comment nous détournons ce point de vue-là. Nous n'allons pas nous mettre dans la perspective de Leibniz, c'est-à-dire commencer la métaphysique par l'être possible. Non. Nous commençons la métaphysique, toute la philosophie, par l'expérience. Au-delà de l'expérience, il y a le jugement d'existence. Le jugement d'existence, ceci est. Ceci est, ce n'est pas une idée. Ceci est, ce n'est pas l'être possible, c'est justement celui qui est. C'est le fait d'exister. Donc le jugement d'existence me met en présence d'une réalité qui existe. Alors le gros problème, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est simplement pour réaiguiser votre intelligence, c'est pas. Le gros problème, c'est de comprendre que le jugement d'existence n'est pas adéquat à ce que Occam dira d'atout. Il y a es gibt en allemand, le es gibt de Heidegger, c'est-à-dire ceci est donné. Ceci est donné, il y a. Alors, il faut bien comprendre la différence entre le ceci est du jugement d'existence et le es gibt, le d'atout. Le français dit moins bien la chose que l'allemand et le latin. Datum, c'est quelque chose qui est donné. Quand vous dites c'est quelque chose qui est donné, qu'est-ce que vous regardez en premier lieu? Réfléchissez un instant. Quand vous dites ceci est donné, qu'est-ce que vous regardez en premier lieu? Vous regardez en premier lieu le ceci. Et vous regardez le ceci en tant qu'il est. C'est-à-dire en tant qu'il est autre que ma connaissance. C'est le datour, c'est ce vers quoi je tends, c'est ce que je respecte, c'est ce qui est au-delà de ma connaissance, au-delà de l'intentionnalité. Ma connaissance est au niveau de l'intentionnalité et le datour est un au-delà de l'intentionnalité. Je saisis cette réalité qui m'est donnée et je la saisis comme quelque chose qui est au-delà de ma propre connaissance, puisque c'est donné. Vous comprenez que ce datour, c'est quelque chose qui est donné et que je ne saisis pas. Il n'y a qu'un pas à faire de là avec le nous-mêmes de Kant. C'est intéressant de voir d'où naît le noumen de Kant. Hein. Eh bien, il naît de ce datour d'octave. Hein. C'est intéressant de voir comment c'est préparé longtemps d'avance. Si j'ai le jugement d'existence, je ne dis pas ça. Le jugement d'existence ne me mène pas au noumen, alors que le datour me mène au noumen de Kant. Il a une prétention de monter tout. Tandis que l'intentionnalité ne veut pas qu'il monte. Dans mon intentionnalité, je ne veux pas qu'il monte. Et puis il monte quand même. Il a une propension à l'orgueil. Alors que je veux le maintenir dans les bas-fonds pour qu'il soit proche de moi. Je vais en voir. Aucune obéissance. Bon, alors, c'est de fait, dans le jugement d'existence, je respecte qu'il y a un autre, mais en même temps, le jugement touche cet autre. Ceci est. Donc, il n'est pas étranger à ma connaissance. Et c'est ça qui est important à voir. Tandis que le noumen est étranger à ma connaissance. Il est quelque chose qui ne peut pas qui le transcende. Tandis que quand je dis ceci est, il y a un toucher. Et ce toucher se fait justement par le verbe. Ceci existe. Il existe. Quand je dis il existe, j'ai une certaine connaissance, un certain toucher de l'intelligence. Alors ce toucher de l'intelligence, c'est le jugement d'existence. Vous voyez que ce toucher de l'intelligence montre que au-delà du ceci, je suis capable de saisir l'être. Et je vous ai dit, c'est là où il faut comprendre l'intuition de l'être de Maritain. En réalité, ce n'est pas l'intuition d'être, c'est l'intuition du fait que le ceci peut être divers, parce que le ceci c'est la vache et c'est aussi bien moi. C'est l'œcuménisme dans l'ordre de l'être. Alors l'œcuménisme dans l'ordre de l'être est extrêmement vache. Donc c'est tous les divers, tous les ceci. Tous les ceci ont quelque chose de commun, ils existent. Ils existent. Alors, du fait même que tous les ceci existent, j'ai l'intuition de l'unité de l'être dans la diversité. Mon intuition de l'être, en réalité, c'est l'intuition de l'unité de l'être dans la diversité. Je crois que c'est ça l'intuition de l'aide de Maritain. C'est ça qui est intéressant à voir. Il y a une intuition, c'est très vrai, Maritain a raison de dire qu'il y a une intuition. Il y a une intuition, il y a quelque chose d'intéressant à saisir, c'est que je saisis que est, malgré la diversité, ramène cette diversité à l'unité. La vache existe, j'existe. Alors pour Aristote, c'était le chat, c'est mieux que la vache. Hein. Le chat existe, j'existe. Nous existons. Il y a quelque chose de commun dans toute la diversité de ces réalités. Et ce quelque chose de commun, alors, mais je peux le saisir, et me permet à partir de là d'avoir ce sentiment d'admiration. Je vous l'avais dit, c'est très important de comprendre comment les anciens étaient l'admiration au point de départ. C'est vrai qu'une intuition suscite en moi une admiration. Ça, c'est très vrai. Et que c'est peut-être difficile de passer de l'expérience immédiate à l'admiration. À l'admiration. Pour qu'il y ait admiration, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait quelque chose de connu et quelque chose d'inconnu. Quand vous êtes en état d'admiration, vis-à-vis de quelque chose qui vous frappe, qui vous étonne, il y a quelque chose de connu. S'il n'y a pas quelque chose de connu, vous ne serez pas en admiration. Mais il y a en même temps tout un halo inconnu. C'est ça qui suscite l'admiration. Alors, les anciens disaient admiration. Heidegger, à la suite de plusieurs, c'est pas Heidegger qui dit ça le premier, puisque c'est déjà chez Kierkegaard, disent que c'est l'angoisse. Alors, c'est aussi très intéressant de mettre une opposition entre admiration et angoisse. Ce sont deux états affectifs extrêmes. Normalement, quand vous êtes dans un état d'angoisse, c'est très difficile pour vous d'être dans un état d'admiration. Franchement, c'est très difficile. Tous ceux qui ont connu un peu l'angoisse savent très bien que l'angoisse, ça nous inhibe complètement, tandis que l'admiration, ça nous met dans un état euphorique. Je suis dans l'admiration ce matin, c'est extraordinaire. Il y avait un lever de soleil étonnant, merveilleux, l'admiration. Un vrai nom d'angoissé. Alors, d'où vient l'angoisse? Qu'est-ce que c'est que l'angoisse au point de vue philosophique? Parce qu'on parle d'angoisse métaphysique. Hein. En réalité, il n'y a pas d'angoisse métaphysique. Mais bien, il y a des angoisses profondes, mais l'angoisse est un état affectif. Alors, si la métaphysique était une question de sentiment, je dirais oui, il y a l'angoisse métaphysique. Il n'y a pas d'angoisse métaphysique. La métaphysique, ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question affective, c'est l'intelligence qui découle la réalité. Et la réalité n'est jamais terrifiante. La réalité est au contraire reposante. Qu'est-ce qui est terrifiant? C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est le possible qui est terrifiant. C'est jamais la réalité. La réalité est reposante. La réalité peut me blesser, hein. Elle peut me blesser, elle peut être terrible, ça peut être un glaive, c'est pas vrai. Ça peut être la réalité. Mais la réalité ne me terrifie pas, ne me met pas dans l'angoisse. L'angoisse est un état affectif dans lequel je me replie sur moi-même, dans lequel je ne vois plus aucune sécurité. Le but de l'angoisse, c'est de supprimer toutes les déterminations. Quand il y a une détermination, je ne suis plus angoissé. C'est pour ça que quand vous êtes en face de quelqu'un qui est angoissé, il faut lui tenir la main. Parce qu'en lui tenant la main, vous lui donnez une détermination. C'est la déesse par rapport à Parmenide. Elle lui a juste donné la main. Peur que Parmenide soit angoissé. Alors elle lui a donné la main. Et en lui donnant la main, elle montre qu'elle est là présente. Nous avons besoin d'une présence quand on est angoissé. On a besoin d'une présence, même d'un petit animal. Quelqu'un qui est angoissé, il va avoir un petit chien à côté de lui, ou un petit chat, ça dépend des tempéraments, ça dépend du type de l'angoisse. Mais on a, la présence supprime l'angoisse. La présence donne une certaine détermination et une certaine sécurité. Vous voyez, la présence est un au-delà de l'angoisse. Tout de suite, ça fait autre chose. Et l'admiration va commencer à naître à partir de la présence, normalement. Il peut y avoir des présences terrifiantes, mais pas angoissantes. Autre chose. La terreur n'est pas l'angoisse. L'angoisse, c'est ce fait, du reste, ça a été dit, et c'est juste, hein. La peur, la terreur implique une détermination. J'ai peur du gros chien. Je ne dirai jamais, je suis angoissé à cause du gros chien. Donc, j'ai peur du gros chien. Alors, on distingue la peur de l'angoisse, parce que la peur est déterminée. Le point de vue de la terreur est déterminé. Le point de vue de l'admiration est déterminé. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'angoisse, c'est l'inhibition complète. Il n'y a plus aucune détermination. Plus aucune détermination. Alors, on est angoissé. Vous voyez, c'est le repliement sur la transcendentalité du sujet. C'est le repliement sur nous-mêmes dans le fait qu'il n'y a plus aucune détermination. Et là, ça nous met dans un état d'abîme, dans un état de négation. C'est la négation vécue au niveau affectif. Hein. C'est ça. C'est le primat de la négation au niveau affectif, l'angoisse. C'est quand même quelque chose d'assez cru. Alors, c'est intéressant de voir l'opposition, c'est toujours intéressant de voir les anciens et les modernes, parce que ça nous aide à comprendre. Hein. Les anciens, les Grecs, l'admiration, Kierkegaard, Heidegger, l'angoisse. Et les deux disent que c'est l'introduction à la métaphysique. Pour Aristote, pour Platon, c'est par l'admiration que j'entre en contact avec l'être. Pour Heidegger, c'est par l'angoisse que j'entre en contact avec l'être. Et les deux états affectifs intéressants à voir qui sont diamétralement opposés. L'un est positif, l'autre est négatif. L'un provient, je crois qu'on peut dire, d'une certaine intuition de l'unité dans la diversité. Toute admiration provient de cette intuition d'unité dans la diversité. Vous voyez, c'est l'analogie là. L'unité dans la diversité. Au-delà de la diversité, l'unité. Tandis que de l'autre côté, l'angoisse, elle naît de quoi? Elle naît du fait qu'il n'y a plus rien devant moi. C'est le rien. C'est le rien qui suscite en moi l'angoisse. Plus aucune détermination, plus aucune sécurité. Là, je suis angoissé. Normalement, l'angoisse nous inhibe et nous met dans un état dans lequel on ne peut plus agir. Tandis qu'au contraire, l'admiration va susciter l'interrogation.
Alors, c'est ça qu'il faut bien saisir, ce passage de l'admiration à l'interrogation.
Tandis que l'angoisse me met dans un état d'éloignement. Je suis dans un état d'éloignement. C'est pas la peur, parce que c'est au-delà de la peur, c'est beaucoup plus profond que la peur, mais c'est un état d'éloignement par rapport à la réalité. Alors, c'est très curieux ce que dit Heidegger, c'est que de l'angoisse,
j'arrive à penser l'être. Heidegger l'explique.
C'est comme une espèce d'expérience de l'angoisse naît l'être, du rien naît l'être. Alors, on comprend qu'il fallait l'opposition entre l'être et les étangs. Et c'est pour ça qu'il faut entre les deux le rien, entre les deux l'angoisse, pour que l'être apparaisse. L'être apparaît ex nihilo. L'ancienne affirmation théologique qui est reprise, c'est à partir du rien que l'être naît. Alors lui le fait par rapport à la propre connaissance de l'être, c'est qu'il faut que le rien soit présent en moi pour que l'être apparaisse. Tandis qu'au contraire, dans la perspective du réalisme, parce que ça c'est une perspective de la transcendance, de l'aspect transcendantal de l'intelligence. C'est la subjectivité transcendantale, ça. Tandis qu'au contraire, à partir de l'expérience, l'intuition, l'admiration et l'interrogation, qu'est-ce l'être ? Voilà la grande interrogation par laquelle j'entre en philosophie première. Tandis que là, il n'y a pas d'interrogation. C'est très curieux. Alors, là, il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre dans Heidegger, c'est qu'à la fois, il dit que l'interrogation est la chose la plus grande en métaphysique, et en même temps, il dit penser l'être. Alors, est-ce qu'il identifie les deux ? Ce qui serait intéressant à voir. Est-ce qu'au fond, penser l'être, c'est l'interrogation sur l'être ? Et que je n'ai pas d'autre pensée de l'être que l'interrogation sur l'être, que je croirais assez bien. Et que, au fond, pour lui, à partir de l'angoisse, va naître un dernier saut de l'intelligence, un bond d'intelligence. Vous voyez, Kierkegaard parlait du bond. Il y a un bond, il y a un sursaut d'intelligence. Et ce sursaut d'intelligence fait que l'intelligence est obligée de découvrir au plus intime d'elle-même ce qui est inscrit en elle. L'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il faut autrement dit que l'intelligence soit comme radicalement purifiée par l'angoisse pour que l'intelligence puisse redécouvrir au plus intime d'elle-même ce qui est inscrit en elle. Alors vous voyez que là, on serait très proche de ce que Rosmini nous dit, que l'idée d'être, le concept d'être, et ce qu'il y a de plus fondamental dans l'intelligence. Mais Heidegger lui dit, pas de concept d'être, pas d'idée d'être, c'est donc l'intelligence qui découvre au plus intime d'elle-même, l'appétit naturel vers l'être. C'est pas la même chose. Mais des deux côtés, c'est intéressant de voir qu'on veut toucher quelque chose de radical dans la vie de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il y a de radical dans la vie d'intelligence ? C'est son appétit vers l'être. Alors, pour découvrir cet appétit vers l'être, il faut cette purification. Et cette purification se fait par la négation, l'angoisse. C'est une purification radicale de toutes les déterminations, de toutes les sciences qui sont en nous. Heidegger est très sensible à ça. On est enveloppé d'une culture scientifique, d'une culture technique. Tant que je reste au niveau de cette culture scientifique et de cette culture technique, je n'arriverai jamais à saisir l'être, puisque les sciences et la technique ne regardent que les étangs, donc que les déterminations particulières. Il faut donc découvrir un au-delà de ces déterminations particulières et purifier radicalement mon intelligence par l'angoisse. C'est très cool. Système, si vous voulez, d'un acide qui purifie. Et l'angoisse, c'est un acide qui purifie. Alors là, je verrai quelque chose de très intéressant, qui est d'ordre mystique, hein, pour redécouvrir l'appétit le plus foncier de l'intelligence qui est ordonné à l'être. Et je crois qu'au fond, c'est cela. C'est pas explicité dans Heidegger, mais je crois que c'est cela qui est de plus radical dans sa saisie. Il faut que tous les étangs soient brûlés. Il faut que tous les étangs disparaissent. Il faut que tous les étangs, toutes les réalités que je vois, que je détermine, que la science peut saisir, que la technique peut modifier, il faut que tout cela disparaisse pour qu'apparaisse quelque chose de beaucoup plus radical, l'être. Alors l'être n'est pas conçu comme l'idée d'être à la manière de Rosmini. Parce que pour Rosmini, ce qui est le plus fondamental dans la vie de l'intelligence, c'est l'idée d'être. Alors, ce n'est pas ça, c'est quelque chose d'autre, je crois qu'on pourrait dire, c'est l'intelligence face à l'être. Mais qu'est-ce que c'est que cet être? On ne sait pas. Heidegger dit, ce n'est pas lui. Ça, c'est bien évident. C'est pas l'être de Parménide. Ce n'est pas lui. Et ce n'est pas l'idée d'être. Voilà les deux négations qui sont dites d'une façon très nette. L'idée d'être n'est pas Dieu, donc l'être qu'Heidegger saisit n'est pas Dieu, et n'est pas l'idée d'être, puisque Heidegger est en opposition violente vis-à-vis de cette idée d'être. Et il a raison, ça. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas l'idée d'être, la métaphysique ne commence pas à partir de l'idée d'être, elle commence à partir de l'être. Et où je suis moins d'accord avec lui, c'est que savoir qu'est-ce que c'est que cet être. D'où vient-il? Il n'est ni l'idée, ni Dieu. Et il n'est pas les étangs. Alors, qu'est-ce qu'il est? N'est-il pas une construction d'intelligence? S'il est une construction d'intelligence, il est une idée. Or, il n'est pas une idée. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il ne dit pas. On reste devant quelque chose d'énigmatique. Je crois par le fait que l'être de Heidegger est énigmatique. On n'arrive pas à... Tous ceux qui ont voulu préciser sont arrivés devant quelque chose que Heidegger disait non. Il y a des Valens, a voulu préciser cela dans son étude sur Heidegger. Et Heidegger a dit non. Alors, quand Heidegger est mort, évidemment, il ne peut plus répondre. Mais c'est pour ça qu'on peut s'en donner à cœur joie. Mais au fond, l'être de Heidegger est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. On voit très nettement les deux aspects, mais on ne sait pas exactement. Regardez Maritain quand il essaie de préciser un peu ce que c'est que cet être de Heidegger. Je ne crois pas non plus que ce soit vraiment ça. C'est intéressant ce qu'il dit, mais ça reste quelque chose qui dépasse les connaissances ordinaires de l'homme. Et donc, il faut cette purification, c'est plutôt mystique, il faut cette purification radicale de notre intelligence, de notre manière de connaître par le point de vue de l'angoisse pour découvrir être en présence de l'être. Il faut être en présence de l'être. Alors vous voyez, c'est plus ce côté affectif qui nous aidera à comprendre. Être en présence de l'être. L'être se révèle. L'être se dévoile. Mais il n'est pas les étangs. Il ne se dévoile pas à partir des étangs, il y a une question absolue entre les deux. Alors, au contraire, prenons l'autre position, la position que nous essayons de comprendre. Je dis qu'à partir de l'admiration, il y a une continuité entre mon jugement d'existence, entre mes expériences. Vous comprenez bien la continuité, c'est ça qui est important à saisir. Et en même temps, de bien saisir tous les moments. Il y a une continuité.
Parce que c'est à partir de l'expérience, à partir de mes diverses expériences, que je saisis le jugement d'existence. Ce jugement d'existence provoque en moi une intuition de l'être. Cette intuition de l'être va être source de l'admiration. Voilà les différents moments. Et à partir de l'admiration, l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors la grosse question, nous étions restés là-dessus, la grosse question, la signification de cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Est-ce que la signification de qu'est-ce que c'est que l'être est la même que dans le jugement d'existence aussi est ? Alors ça, c'est capital. Si ce n'est pas la même signification, vous comprenez qu'à ce moment-là, je ne peux plus que me réfugier dans la condition de la lumière. Si ce n'est pas la même signification, s'il y a une discontinuité au point de vue de l'ordre de la signification, dans l'ordre de la saisie, entre la signification qu'est-ce que c'est que l'être et ceci est, s'il y a une discontinuité entre les deux, ça prouve que la signification de l'être ne vient pas des réalités existantes, mais vient uniquement de mon intelligence. Ça, je crois que c'est une garde triage. Hein. Vous voyez bien la garde triage. Hein. Ça, c'est très très important. Hein. Là, vous voyez les voitures qui vont d'un côté et les voitures qui vont de l'autre. Hein. Et si vous ne saisissez pas ça, je crois que ça, c'est le point absolument important. Névralgique, si vous voulez. Une fois que vous avez saisi ça, vous saisissez tout de suite les deux grandes positions de l'avenir. La position du néo-catholique et la position de la République. C'est quand même très important de bien saisir ces deux positions. À la source, c'est très proche, il y a quelque chose de commun. Tout ce que j'ai dit là, un néo-catholicien pourrait l'accepter. Mais ce qui ne va plus accepter, c'est ce que nous allons dire maintenant. Il faut voir les moments de rencontre avec les autres philosophes et les moments où on dit vérifie. On dit alors, c'est tout. C'est bon. C'est un sujet qui a été suffisamment traité à droite et à gauche pour essayer de dialoguer avec eux et de comprendre. Alors, pour un néo-platonicien, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être ici a une signification qui ne peut pas du tout se ramener au jugement d'existence. Elle a quelque chose d'unique. Et donc, c'est l'intelligence elle-même qui devra, par elle-même et en elle-même, découvrir ce que c'est que l'être. Indépendamment de l'être. C'est pareil de l'esprit. Vous voyez, à ce moment-là, ce sera très très proche hein, de ce que nous voyons dans Avicenne. Avicenne dit que, de fait, nous avons, au point de départ, des intentionnels, donc des concepts, des notions qui sont tout à fait premières. Et pour lui, il met là les transcendentaux. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est tout de suite quelque chose qui est lié au transcendantal. Quand vous regardez les sept leçons de l'être chez Maritain, vous voyez que c'est assez proche de ça. Je ne dis pas que Maritain est lycénien, mais je dis que c'est assez proche de ça. Parce qu'au fond, pour Maritain, l'être va être quelque chose dont la signification est donnée par l'intelligence elle-même. C'est bien le jugement d'existence, il le dira, mais en réalité, vous voyez que tout de suite, il regarde le concept d'être et les transcendantaux. Tout de suite. C'est très curieux. Et ça, je crois que c'est un vieux rêve de l'histoire. Alors, il me semble que nous devons dire ceci. Personnellement, j'en suis persuadé, hein, mais je dis qu'il me semble, formule rhétorique, hein, pour ne pas vous obliger, vous laisser libre de découvrir vous-même ce que doit être la réalité profonde. Hein. Qu'on doit dire ceci. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est l'intelligence qui isole le être pour lui donner une forme abstraite. On part du concret vers l'abstrait. Blanc-blancheur. Je prends exprès blanc-blancheur parce que là c'est très facile à comprendre. On est tous d'accord. On est tous d'accord qu'on n'a jamais eu l'expérience de la blancheur, tandis qu'on a l'expérience du blanc du mur, du blanc du vêtement, et ainsi de suite. Un visage blanc, la neige blanche, on a cette expérience-là. Et vous n'avez pas le sens de la blancheur. Alors, vous pouvez avoir l'expérience de ceci est, mais vous n'avez pas l'expérience de l'être. Et donc, pour connaître ce que c'est que l'être pris d'une manière abstraite, il faut revenir à ceci est. Puisque je ne connais la blancheur que par mes diverses expériences blanches. Si vous avez saisi 36 ans, vous avez une notion de la blancheur beaucoup plus forte que si vous n'avez saisi qu'un seul blanc. Si. Pour la lumière. Hein? La lumière, c'est sûr. Si on n'a vu qu'une seule lumière, la lumière des pélicans, on n'a vu que cette lumière-là. Alors, on dira que partout, mais c'est, il n'y a que cette lumière-là. Alors, si on a la lumière de la Grèce, la lumière de Palestine, la lumière du tropique, la lumière de l'Afrique, pourquoi c'était différent, la lumière, c'est pas la même chose. Alors, on voit très bien qu'on a des expériences diverses qui arrivent à faire que l'abstrait a une richesse de signification beaucoup plus grande grâce à ces diverses expériences. Je récapitule toutes ces expériences. Alors, vous voyez, ici, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'être? Si vous n'avez qu'un seul jugement d'existence, ceci est, le ceci très vague, votre est n'est pas très riche. Si au contraire vous avez de multiples expériences, votre est beaucoup plus riche. Et alors l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être prend une valeur beaucoup plus grande. Alors je crois qu'on doit dire ceci, hein, que l'intelligence a besoin de thématiser. L'intelligence a besoin d'abstraire, de mettre en sa présence ce qu'elle veut connaître. Ce procédé très très curieux d'intelligence, de séparer, de distinguer pour connaître. La distinction est nécessaire pour connaître. Dans le ceci est, il y a un petit blocage, une petite confusion qui est donnée dans le datour, qui fait que je ne distingue pas la détermination du ceci et l'exercice de est. Il y a deux choses différentes, le nom et le verbe, c'est quand même deux spiritualités très différentes. Le nom, c'est quelque chose de substantiel, c'est quelque chose de bien assis, bien déterminé. Le verbe, c'est l'exercice. Et le verbe absolument pur, c'est « est ». C'est l'exercice, à l'état pur. Alors l'intelligence distingue les deux pour connaître qu'est-ce que c'est que l'être. Le « ceci », ce n'est pas la peine. Le « ceci », elle le connaît très bien. Pas besoin de chercher. C'est la détermination, c'est l'au-delà des catégories, c'est le sujet indivisible, individuel. Elle le connaît. C'est le sujet concret. Mais ce qui est intéressant, c'est le verbe « être ». Alors, elle le met sous une forme, c'est très curieux, sous une forme de la forme du verbe infinitif, qui est une forme qui substantialise un verbe, qui met le verbe en lui-même, indépendamment de sa relation vis-à-vis du sujet. La parole elle-même indique cela. Donc, je suis capable d'isoler et de ceci. Et l'intelligence fait ça pour regarder uniquement est. Et quand elle regarde uniquement est, elle pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, ce passage entre les deux, c'est très très important ça. Pour comprendre que la signification de être, c'est présent dans le ceci est. Mais, alors tout de suite comprenons bien, c'est la même signification, mais sous deux modalités totalement différentes. L'une concrète, que je peux saisir directement. L'autre abstrait, que je ne saisis pas directement. Je formalise. Alors, ce qui est intéressant là, parce que ça fait comprendre tout le platonisme. Ça fait comprendre tout le platonisme. Le platonisme ne cesse de formaliser les formes en soi, l'être en soi. C'est l'être en soi qui est pris dans l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être?
Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Mon intelligence a besoin de distinguer pour mieux saisir. Mais il ne faut pas opposer, c'est-à-dire faire de cette distinction une division. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux états, l'état concret et l'état abstrait. Il faut comprendre qu'au-delà de ces deux états, il y a quelque chose qui demeure et qui est commun. C'est la signification de être, c'est la signification de être. Ou c'est la signification de être et la signification de être. Alors, s'il y a quelque chose de commun avec deux modalités différentes, quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je peux revenir à mon jugement d'existence en disant, à partir du ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors là, vous voyez tout de suite la différence avec la position heideggerienne. Pour Heidegger, je ne peux pas revenir en arrière. Autrement dit, Heidegger fait de la distinction une division et une opposition. Il y a une opposition entre les étants et l'être. Et donc, l'être, je ne peux pas le comprendre à partir des étants, puisqu'il y a la négation absolue entre les deux. Donc je ne peux pas revenir aux étants. Les étants ne me disent rien du tout sur l'être. Ils ne sont pas porteurs de la signification de l'être. Et donc l'être est au-delà des étangs. Tandis qu'au contraire ici, je ne dis pas du tout, l'être, il est à l'intérieur des étangs. L'être, il est en moi. L'être, il est en vous. L'être, il est dans toutes les réalités. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est à l'intérieur même. Mais c'est mon intelligence qui est capable de discerner dans la réalité que je vois son exister et son devenir. En tant qu'étant, je suis dans le devenir. En tant qu'étant, je suis corruptible. En tant qu'être, je suis au-delà du devenir. La distinction de l'être au-delà du devenir. Mais l'être, quand je dis que l'être est au-delà du devenir, je ne dis pas que l'être s'oppose au devenir. Le devenir conduit à l'être. Il ne s'oppose pas, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de diversité absolue. Il y a une distinction entre les deux. Mon intelligence est capable de distinguer l'être et le devenir. Elle est capable de distinguer l'être et les étants. Elle est capable de se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors ça me semble très important à bien saisir. Vous avez une question? Je me réfère pas aux étangs, je me réfère associés.
Alors nous pouvons assurer là que nous avons telle lumière de la tête, telle lumière de l'humain, telle lumière de la vie, ainsi de suite. À ce moment-là, nous n'avons plus aucune notion de
telle lumière.
Il y a d'ailleurs une construction de notre intelligence.
Ce n'est pas une construction. Quand vous réfléchissez un instant, quand vous dites qu'est-ce que c'est que la lumière, vous vous référez à toutes vos expériences de la lumière, je crois. Bien d'accord. Chaque expérience de votre lumière vous apporte quelque chose de nouveau. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai une expérience d'un pays où j'admire la lumière, j'ai une expérience d'un autre pays, j'admire sa lumière. Ces expériences ne s'opposent pas, elles se distinguent. C'est moi qui réfléchis sur ces diverses expériences. Et j'essaie de les comprendre. Mon intelligence est capable, au-delà de la diversité des expériences, de saisir ce qu'il y a de commun. La lumière, je prends la lumière parce que c'est l'exemple, vous voyez, Heidegger dit l'être et lumière. Hein? Et c'est intéressant de voir cela, c'est intéressant, l'être et lumière. C'est vrai, je ne dis pas que l'être lumière, c'est un langage un peu néo-platonicien, ça, l'être et lumière. Je prends un exemple parce que, de fait, la lumière, c'est dans le monde sensible ce qu'est le plus spirituel. Et l'être est dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est plus spirituel. Donc il y a une analogie entre les deux. Et l'analogie peut vous aider à comprendre. Vos diverses expériences de la lumière font de plus en plus, vous avez une saisie intellectuelle de la lumière plus parfaite. Alors, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la lumière ? Alors, vous savez bien que vous n'avez pas l'expérience de la lumière. La lumière en soi, vous n'avez pas l'expérience. Comment vous avez l'intuition de la lumière et vous restez une fois dans la dimension des autres expériences à la lumière. Les expériences ont été simplement pour susciter en moi cette connaissance et cette saisie de la lumière. C'est pas ça. J'ai menti à travers toutes mes expériences ce que c'était que la lumière. Et quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que la lumière, je reviens à l'expérience. Et je reviens à l'expérience avec une interrogation nouvelle. Et cette interrogation nouvelle permet à mon intelligence d'aller plus loin.
C'est l'heure, parce qu'ils ont envie d'entrer.